ラジオオカピ
オカピ
au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission au Capi Service de ce jour. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler des grandes lignes du nouveau programme de coopération de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Vous savez, l'UNICEF a fêté ses 60 ans d'existence en RDC dernièrement. Alors, il y a un nouveau programme qui est mise en place, un programme de coopération entre l'UNICEF et la RDC. Quelles sont les grandes articulations de ce programme? Nous allons en discuter dans cette émission avec nos invités. Monsieur Oumar Ndao est chef planning au bureau de l'UNICEF. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Nous avons dans ce studio aussi Abigail Mwabe, jeune encadreur d'enfants. Bonjour. Et puis Emmanuel Jidissa, ambassadeur UNICEF Climat. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et bienvenue à tous dans cette émission. Le standard est déjà ouvert. Composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Paul Badianyama assure la mise en onde. Tati Makoukou réalise et coordonne cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, l'UNICEF a célébré dernièrement ses 60 ans d'action en République démocratique du Congo. Une période marquée par des réalisations notables, mais aussi des défis persistants en ce qui concerne la survie de l'enfant, la protection, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'engagement communautaire, l'éducation, la lutte contre la poliovirus, etc. Mais tout cela, malgré tout cela, l'UNICEF s'engage à redoubler d'efforts à travers un nouveau programme de coopération avec le gouvernement congolais pour la période 2025-2029. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce nouveau cadre de coopération entre la RDC et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance? Voilà, on en parle tout à l'heure avec nos invités. Le premier, c'est monsieur Oumar Ndao. Bon, encore une fois, bonjour.
Bonjour encore.
Bien, vous êtes chef planning au niveau de l'UNICEF. Alors, l'UNICEF a fêté ses 60 ans d'existence en RDC. Pouvez-vous retracer quelques grandes réalisations durant ces 60 ans et quel bilan vous pouvez dresser?
Merci beaucoup pour l'invitation qui nous donne l'opportunité d'échanger en fait sur le travail de l'UNICEF. Et quand on dit le travail de l'UNICEF, comme on le sait, le mandat de l'UNICEF, c'est d'appuyer les gouvernements à la réalisation des droits des enfants. Donc, les résultats même qu'on va présenter ne sont pas des résultats de l'UNICEF en tant que tel, parce que ce n'est pas l'UNICEF, mais c'est l'UNICEF qui appuie le gouvernement de la RDC pour la réalisation des droits des enfants. Mmh. Et effectivement, en 60 ans, beaucoup de choses ont évolué très positivement, même s'il y a encore des défis sur lesquels nous devons travailler encore sur le prochain cycle. Entre autres, on peut mentionner en fait la réduction drastique du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est passé donc de 183 pour 1000 à 76 pour 1000 enfants entre 1990 et maintenant. Donc une réduction de plus de moitié, même si 76 pour 1000, 76, c'est comme ça qu'on dit, est encore élevé. Et c'est pourquoi nous comptons redoubler d'efforts dans le cadre du prochain programme pour réduire encore davantage. Par exemple, le taux de l'allaitement maternel exclusif est passé de 36 à 60% sur la même période. Cela, c'est des résultats qui sont liés à des interventions que l'UNICEF fait en appui au gouvernement et en collaboration avec les partenaires. Au niveau de l'éducation aussi, le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 62 à 112%, donc plus de 100%, avec notamment l'appui que l'UNICEF a apporté au gouvernement pour la gratuité de l'éducation et qu'elle continue d'apporter pour une qualité de cette éducation au-delà juste de l'accès. Autre réalisation qu'on peut aussi mentionner, c'est au niveau de la protection de l'enfant, les gains énormes que nous avons faits au niveau, par exemple, de l'enregistrement des naissances, où sur les 12 dernières années, 14,6 millions d'enfants ont pu être enregistrés avec l'appui de l'UNICEF au gouvernement. Donc, en moyenne, 1,2 million d'enfants sont enregistrés chaque année. Donc, pour qu'ils puissent avoir une identité et pouvoir bénéficier de tous les services donc sociaux de base. Et les enfants victimes de violences, donc plus de rien que cette année 2023, on est en train de travailler sur le rapport 2024. Plus de 580 000 enfants ont bénéficié de prise en charge et d'accompagnement au niveau de la protection. Sans compter les réalisations au niveau donc de WASH, donc eau, hygiène, assainissement, tout ce qui est point d'eau que l'UNICEF a aidé le gouvernement des milliers à mettre en place au niveau des villages, au niveau des écoles, au niveau des structures de santé, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses.
Beaucoup de réalisations, voilà.
Pendant ces,
ces 60 ans.
Oui.
Abigail, vous êtes, vous encadrez les enfants, Abigail Mobé, jeune encadreur d'enfants. Alors, quel bilan vous faites de ces 60 ans de l'UNICEF?
Ben, on va dire que ces 60 ans de l'UNICEF, c'est surtout 60 ans, c'est surtout 60 ans d'intervention. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas là depuis le début, mais on a quand même joué, on a quand même participé à faire de ces 60 ans des réponses aux questions des enfants. Donc, c'était 60 ans d'émissions comme celle-ci, 60 ans de plaidoyer, 60 ans de discours, de participation à diverses activités, mais surtout d'écriture de textes qui sont publiés sur le blog Ponabana ou encore de mots adressés à certaines autorités.
Donc, et par exemple, quels étaient les domaines qui vous intéressaient le plus parmi les domaines d'intervention de l'UNICEF?
Moi, c'est, on va dire l'éducation.
L'éducation.
Parce que j'ai, c'est un peu particulier mon rapport avec l'éducation parce que je mets un accent sur les filles. Parce que j'ai toujours pensé que c'est important que les filles soient éduquées comme tout le monde.
Toutes les filles à l'école.
Voilà. Et qu'il n'y avait justement aucune raison d'offrir à certains le respect de leurs droits et à d'autres non. Donc voilà.
Et aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de filles vont à l'école.
J'en suis fière. Parce que oui, je dois avouer avoir participé à beaucoup de plaidoyers. On a gagné beaucoup de plaidoyers quand même. Et aujourd'hui, de voir le nombre de filles qui vont à l'école, le nombre de parents qui ont perdu dans de leur tête ou qui ont changé leur perception sur l'éducation des filles et qui aujourd'hui vous parlent des filles qui peuvent aller à l'école et des filles qui peuvent construire, oui, j'en suis fière.
Et aussi la participation des filles. À un moment, on disait il faut donner la parole aux filles, il faut leur donner la parole. Leur point de vue compte.
Bah, je crois que j'en suis la preuve parce que je suis là, j'ai la parole aujourd'hui et je peux parler. Et je ne suis pas la seule parce qu'il y a plusieurs filles aujourd'hui qui comptent. Aujourd'hui, la fille, c'est plus la cuisine, ce n'est plus le mariage. La fille, c'est l'éducation. La fille a une liberté de penser, une liberté d'opinion et voilà.
Bien. Emmanuel, j'ai dit ça, vous êtes ambassadeur UNICEF Climat. Alors, dites-nous, par rapport au climat, quel bilan vous pouvez faire de ces 60 ans? Peut-être que tu n'étais pas encore là, voilà, quand l'UNICEF est arrivé, mais après, voilà, quel bilan tu peux faire de tout ce que tu as vu, voilà.
Ouais, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est vrai, je n'étais pas là quand l'UNICEF est arrivé avec 60 ans. Mais moi, je commençais à travailler avec l'UNICEF depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé en tant qu'enfant reporter, j'ai été formé sur les droits des enfants. Il y avait toutes les thématiques, notamment les changements climatiques. Et en 2021, je suis devenu jeune ambassadeur UNICEF pour les climats. Mais moi, je pense que 60 ans UNICEF, c'est 60 ans d'accompagnement, d'accomplissement, des réalisations, comme on l'a dit, pour le bien-être de chaque enfant, notamment les droits de vivre aussi dans un environnement sain. Vous savez, il y a encore beaucoup à faire pour que les enfants vivent dans un environnement favorable, équitable pour eux, parce que c'est un droit reconnu dans la convention relative aux droits des enfants. Et depuis que moi je suis là, ce que je fais, c'est travailler sur des campagnes de sensibilisation, des plaidoyers, pour appeler tout le monde à l'action, parce que face aux effets du changement climatique, aujourd'hui on parle soit de l'adaptation, soit de la résilience. Mmh. Alors pour qu'on s'adapte, pour qu'on puisse passer à la résilience, il faudrait que tout le monde s'engage, parce que on est tous responsable de cette crise, parce que soit par l'inaction,
on subit les effets de changement climatique.
Exactement. Alors je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose là-dessus, parce que c'est notre futur qui est en danger, quoi. Donc je dirais 60 ans de l'UNICEF, j'avais vraiment beaucoup jeté de fleurs. C'est vraiment une grande réalisation de l'accompagnement pour les enfants de changement climatique, pour les enfants en RDC. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont fiers de l'UNICEF. Moi, par exemple, je suis très fier. L'UNICEF a su me donner une chance, voilà, de défendre, de prendre la parole, parce que la participation et donner son avis, c'est aussi un droit. Et l'UNICEF a su donner la chance à ces enfants reporters comme moi, à ces jeunes ambassadeurs. Je rappelle que je travaille chez Equity Apassou. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est l'UNICEF.
Bien, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont engagés par rapport à la protection de l'environnement, le climat, etc.?
Oui, parce que les climats et l'environnement sont des thèmes assez transversaux. Enfin, je dirais transversaux. Parce que les climats, ils touchent l'éducation, ils touchent la protection, ils touchent la nutrition, ils touchent la survie. Ce sont des thèmes très transversaux. Donc, je pense que les enfants, ils sont vraiment très engagés. Quand je vois des enfants apporteurs qui sont récemment formés à Lubumbashi sur les climats, il y a des enfants apporteurs qui documentent, qui font des plaidoyers. D'ailleurs, hier, il y a eu un focus group avec les enfants apporteurs sur les climats. On voit partout, les jeunes s'engagent, parce que le changement climatique, en fait, c'est un sujet qui prend en plaire. Donc, c'est vraiment sur l'actualité. Il faut agir. S'il faut agir, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc, voilà.
Bien, merci beaucoup Emmanuel. J'ai dit ça, ambassadeur UNICEF Climat. Bien, je donne la parole encore à Monsieur Oumar Ndao. On va parler maintenant du nouveau programme de coopération de l'UNICEF en RDC. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration ou la mise en place d'un nouveau cadre de collaboration entre l'UNICEF et la RDC?
Merci beaucoup. En fait, l'UNICEF, comme j'ai dit tout à l'heure, vient en appui au gouvernement des pays. Et au niveau de chaque pays, entre l'UNICEF et le gouvernement, il y a ce qu'on appelle un cadre de coopération de base, donc qui existe et qui définit les rôles, les responsabilités pour la réalisation des droits des enfants. Maintenant, pour opérationnaliser ce cadre de coopération, on élabore environ tous les 5 ans ce qu'on appelle des CPD, des documents de programme pays, qui permettent à la RDC et à l'UNICEF de définir qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble pour les enfants sur les 5 années.
D'accord. Donc, un instant, on a un auditeur en ligne depuis Iga Barrière dans la province de Litouri. Il s'appelle Safari. Bonjour Safari.
Oui, bonjour. Merci pour la parole, monsieur Jody. J'aimerais encourager seulement l'UNICEF pour ses bienfaits. Moi-même, quand j'étais petit là, au niveau de l'école, l'UNICEF nous a beaucoup, beaucoup aidés. Mais j'aimerais aborder dans ce sens. Il arrivait parfois l'UNICEF puisse faire des dons aux enfants au niveau d'école. Et alors, c'était vraiment beaucoup d'argent, apparemment, quand vous voyez. Alors, tout ce dépasse-là, est-ce que c'était remboursable ou bien ça sera remboursable? Est-ce que tout ce que l'UNICEF fait, ça reste crédit dans notre pays? C'est ça donc une petite préoccupation que j'avais. Les invités pourront m'éclairer quant à ça. Je vous remercie.
Bien, merci. Monsieur Oumar, qu'est-ce que vous pouvez dire à Safari?
Merci, Monsieur Safari, pour la question. Non, l'UNICEF ne donne pas de prêt au gouvernement de la RDC. tout ce qu'on investit, c'est pour la réalisation des droits des enfants. Donc, c'est pas quelque chose qui est remboursé. L'UNICEF fait l'effort de disponibiliser des fonds propres et aussi de mobiliser des fonds auprès des partenaires pour réaliser ensemble avec la RDC les droits des enfants. Mais la RDC aussi reçoit l'appui de l'UNICEF pour mobiliser davantage de fonds domestiques parce que le gouvernement aussi de plus en plus met des fonds propres sur des questions, des thématiques qui sont liées à l'enfance et ça aussi c'est un accompagnement qu'on leur fait pour avoir des budgets sensibles aux enfants.
Bien, alors revenons maintenant à ce qu'on est, vous étiez en train de dire tout à l'heure, que chaque 5 ans, on révisite le programme de coopération, le cadre de coopération.
Exactement. Donc sur les 60 ans, l'UNICEF et la RDC ont bouclé 7 cycles de programmes, donc qui ont varié entre 5 ans pour les uns, 7 ans pour les autres. Par exemple, le cycle qui devait finir en 2019, en 2017 a été prolongé au vu de la situation politique jusqu'en 2019. Donc de 2020 à 2024, on est en train de finir un autre cycle. Donc il fallait qu'on se prépare pour qu'est-ce qu'on va faire à partir de 2025. Donc 2025-2029, on sera dans un autre cycle. Et à l'approche du cycle, déjà à partir de l'année passée, on a commencé à évaluer le travail, les indicateurs, les quelques chiffres que j'ai mentionnés, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mmh. Et là, on a un nouveau document qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration de l'UNICEF à New York en septembre. Et le gouvernement de la RDC avait une délégation là-bas. Le chargé d'affaires, donc ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, était là-bas. Et c'est validé maintenant. Et là, on se prépare pour la mise en œuvre de ce nouveau programme à partir de janvier 2025.
Et quelles sont les grandes lignes de ce nouveau programme ?
Très bien. Les grandes lignes de ce nouveau programme, il y a déjà une vision. Et la vision ne s'arrête pas seulement en 2029, qui est l'horizon temporel du CPDI, mais c'est une vision long terme qui s'aligne sur le PNSD de la RDC, le programme stratégique de développement du pays qu'on est censé appuyer. Donc qui va sur une horizon temporelle de 35 ans. Et nous, donc d'ici 2035, l'UNICEF en fait veut appuyer avec le gouvernement de la RDC, notamment dans les provinces les plus vulnérables. Et ça, c'est un des chiffres majeurs du prochain programme. On veut mettre le focus sur les provinces les plus vulnérables.
On peut avoir une idée, lesquelles par exemple?
Oui, on a fait une analyse d'équité qui nous a permis de voir sur les droits des enfants dans les différents secteurs, éducation, santé,
nutrition, eau, assainissement, voilà.
Et on se rend compte que c'est les 4 provinces du centre, notamment Kasaï, Kasaï central, Sankuru et Maniema, sont les provinces où il y a une proportion d'enfants multidimensionnellement pauvres. Quand on dit enfant multidimensionnellement pauvre, c'est un enfant qui est privé au moins dans 3 des 8 dimensions donc sur lesquelles nous travaillons. Et là-bas, les proportions sont très élevées, l'intention de privation sont aussi sont énormes. Donc l'UNICEF va se focaliser sur ces 4 provinces-là pour délivrer ce qu'on appelle des paquets de convergence au niveau du centre. Mais les 4 provinces de l'Est aussi ont été identifiées comme les provinces les plus vulnérables du point de vue des urgences. Donc il y aura ces 4 provinces prioritaires en termes d'intervention, l'urgence à l'Est, le développement et la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle au centre. Et il y a quelques thématiques importantes par rapport à la réalisation des droits des enfants qu'on va adresser aussi. Par exemple, le travail des enfants dans et autour des mines, au Lualaba et au Katanga. Les problèmes liés à l'urbanisation à Kinshasa, notamment le travail des enfants, les problèmes de climat, assainissement dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Donc c'est ça en fait les priorités en termes d'intervention, ce qu'on appelle downstream, c'est-à-dire ce qu'on va faire sur le terrain. Mais au-delà de ça, nous allons travailler upstream, c'est-à-dire à un niveau plus élevé avec le gouvernement sur l'appui des systèmes. Donc nous allons appuyer le gouvernement de la RDC à élaborer par exemple les documents de stratégie qu'il faut pour l'éducation, pour la santé et autres, à voter les lois qui soient favorables à la réalisation des droits des filles ou autres, à avoir les outils, à former les enseignants par exemple, les acteurs de la santé, etc. Donc tout ça c'est le volet de l'environnement favorable qu'on va continuer à appuyer pour que le gouvernement puisse toucher des enfants avec d'autres partenaires là même où nous ne sommes pas. Donc c'est ça qui nous permettra de ne laisser aucun enfant donc de côté.
Bien, alors une réaction par rapport au nouveau programme, Abigail?
Le nouveau
programme de coopération, voilà.
L'UNICEF, depuis que moi, en tout cas, je connais l'UNICEF, travaille pour les enfants et travaille avec les enfants. Donc, on va dire qu'on est impatient de voir à quoi va ressembler ce nouveau programme, en quoi va consister ce nouveau programme de l'UNICEF et de les voir continuer de faire de la
question. Surtout qu'il va se focaliser sur certaines provinces qui étaient un peu négligées, disons.
Mais bien sûr, l'un des piliers de l'UNICEF, c'est la non-discrimination des enfants. Donc, on tient à ce que tous les enfants aient accès aux mêmes droits. Donc, c'est tout à fait normal que certains enfants qui ont été qui ont reçu moins de réponses que d'autres, puissent être mis en avant dans le nouveau programme. Parce que le but, c'est que tous les enfants aient accès aux mêmes droits et sur le même pied d'égalité. Donc, on espère que l'UNICEF va rester fidèle à sa mission et qu'ils vont continuer à se battre aux côtés du gouvernement pour faire du Congo un pays meilleur et faire de la situation de l'enfant surtout quelque chose de rayonnant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir et le Congo de demain dépend des enfants d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça restera sur la table de chaque staff de l'UNICEF et de chaque membre du gouvernement de la RDC.
Et tes souhaits, quels sont tes souhaits, Abigail? Par rapport à ce nouveau cadre de coopération?
Par rapport à ce nouveau cadre de coopération, je crois que je viens un peu de le dire. Mon plus grand souhait, c'est que la situation de l'enfant s'améliore.
S'améliore, bien sûr.
À chaque fois que je suis allée sur une activité, par exemple, on m'a posé des questions comme qu'en est-il des enfants de l'Est? Qu'en est-il des enfants en situation de rue? Et les enfants qui ne vont pas à l'école? Et les enfants
malnutris? Les enfants dans les mines, monsieur l'a dit tout à l'heure.
Les enfants qui travaillent, c'est quoi leur situation? Donc, mon souhait à moi, c'est que dans les prochaines années, en tout cas si cette prochaine coopération peut permettre à faire évoluer les choses, ce qui serait super, mon souhait c'est que dans les prochaines années, on ait moins de problèmes de ce genre si on n'arrive pas à totalement les faire disparaître. L'idéal c'est que la vie de l'enfant congolais soit paisible. Que l'enfant profite pleinement de son enfance. C'est un peu répétitif, mais l'enfant congolais a tendance à vivre un peu plus. On a des enfants qui sont obligés de nourrir leur famille. On a des enfants qui sont obligés de dormir dans les rues parce qu'ils ont perdu leurs parents, parce que leur maison a été inondée et pour diverses autres raisons. Donc mon plus grand souhait, c'est d'avoir un Congo avec des enfants qui vivent pleinement leur enfance et des enfants dont l'avenir est rayonnant.
Voilà, ça c'est intéressant. Emmanuel, j'ai dit ça, voilà. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau partenariat, de ce cadre de concertation entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo?
Moi, d'ailleurs, je suis très content de cette nouvelle coopération parce que on sait tous que ça va vraiment améliorer, comme Abigail l'a dit, la situation des enfants en RDC. Vous avez tous les enfants partout. Parce que je pense qu'il va, le nouveau programme va encore s'étendre dans différentes provinces. Donc, ça va donner vraiment de la chance à tous les enfants des jours de leurs droits. Parce que c'est vrai, UNICEF, c'est comme Miguel a dit, UNICEF travaille pour les enfants, mais aussi, il faut rappeler, avec les enfants. Voilà, moi, je suis là, je participe souvent dans des campagnes de sensibilisation avec UNICEF parce que tout ce qui est fait sans l'enfant est considéré comme contre l'enfant. Donc, je pense que ces nouveaux programmes vont vraiment changer la situation des enfants en RDC. Va vraiment leur donner la chance de vivre dans un environnement sain, équitable, en paix et surtout en toute sécurité.
Ouais. Et par exemple, en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que vous comptez faire dans le cadre de ce nouveau programme par rapport au climat, votre domaine climatique, environnement, etc.?
Ouais, moi par exemple, en tant qu'ambassadeur avec cette nouvelle coopération, j'ai mis voix en train de travailler sur des nouveaux projets. Voilà. Par exemple, là, j'ai déjà un projet sur lequel je suis en train de travailler. C'est un projet des 1000 arbres pour Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, on est en train de subir les vagues de chaleur. Il y a vraiment la crise climatique à Kinshasa. Et voilà, mon projet
de planter. Parce qu'on a coupé les arbres, tout ça.
Oui, parce que les arbres, en fait, ils sont là pour mitiguer, en fait, la chaleur, quoi. Donc avec les arbres, je pense qu'on va vraiment lutter contre les réchauffements climatiques. Et mon projet de planter 1000 arbres pour Kinshasa, je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment aider. Ça va vraiment nous pousser pour parce que on parle tous de réduire la température à 1,5, je pense, si je ne me trompe pas, degrés Celsius, la température globale. Et planter des arbres, moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est vraiment des avancées à faire pour atteindre cet objectif. Et voilà, donc avec
tu
cette
penses
nouvelle...
déjà à combien d'arbres? 1000?
Ouais, 1000 arbres pour Kinshasa.
1000 arbres pour Kinshasa.
Ouais. Ça, c'est encore un début. Mais après, on pourra, après avoir évalué, on va quitter Kinshasa pour aller aussi dans les provinces. Parce qu'il y a, il n'y a pas seulement Kinshasa, il y a aussi, oui, y a aussi des problèmes, des provinces. Oui, donc avec cette nouvelle coopération, j'ai mes voix, comme j'ai dit, travailler sur des projets, travailler sur des campagnes de sensibilisation, parce qu'il faudrait que tout le monde s'engage pour cette question du changement climatique, parce que c'est tout le monde qui est en danger. Donc donc
peux-tu nous rappeler la dernière campagne sur laquelle tu as travaillé?
La dernière campagne sur laquelle moi je travaille, c'est la campagne Boupé Tonakela, ici. Voilà, je vais traduire en français, propriétaire à l'école. C'était une campagne qui nous a permis, en fait, d'aller dans des écoles, sensibiliser les élèves sur la gestion durable des déchets, parce que voilà, à Kinshasa, il y a beaucoup plus de déchets qui sont produits, mais il n'y a pas une bonne gestion des déchets. Et le but, c'était généralement tout justement d'enseigner ces enfants là qui sont les futurs papas, les futures mamans,
ouais, de ne pas jeter les déchets dans la cour de l'école.
Exactement, d'être déjà responsable et d'adopter en fait des gestes éco-responsables déjà dès les bas âges, et après ils vont partager avec leur père pour une ville très propre, comme on le disait avant, Kinshasa Label.
Ouais. Bien, on va accueillir les auditeurs. Malonga est à Bandundouville et Thomas nous appelle de Bounia. Des questions et préoccupations, composez les 099 706 99 41.
Vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, nous parlons aujourd'hui du nouveau programme de coopération entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo. Malonga, vous nous appelez depuis Bandundouville. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui. Bonjour à Tati Mapoko et à nos invités, à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Malonga?
En tout cas, aujourd'hui, la thématique est vraiment très enrichissante. Mais moi, je vais entrer en profondeur. Puisque si quelqu'un veut construire une maison, il doit tenir compte de la fondation et de l'environnement dont il veut ériger cette maison. L'UNICEF, oui, a de belles idées, a de bonnes initiatives pour protéger les enfants et pour faire accroître bien l'enfant et pour promouvoir tout ce qui est d'avance. Mais dans notre pays, nous sommes souciés, surtout ici, dans la province du Grabandundu. Nous restons avec les orphelins qui sont restés suite à Mobondo. Tout ça. Est-ce que l'UNICEF, oui, il peut y avoir une coopération, l'UNICEF et la République démocratique du Congo, c'est bon. L'UNICEF, c'est un grand organisme mondial qui a aussi le pouvoir de faire quelque chose pour atténuer ce qui se passe ici dans notre pays. À l'Est aussi, il y a des orphelins qui restent ici à tout ce que nous connaissons. Est-ce que l'UNICEF, avec d'autres organismes, ils ne peuvent pas s'organiser pour finir d'abord toutes les atrocités qui attristent les enfants? Et puis, tous les développements vont suivre. Mais tout ce que je suis en train de suivre, ce que les invités disent de là, en tout cas, moi, je vois, c'est comme une mascarade. En tout cas, je m'excuse. Tout ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Ici, nous souffrons en bas de Bouville, ici. Il y a les enfants qui n'ont ni père, ni mère, ni famille. L'enfant est resté comme ça.
Les orphelins.
Okay. Oui. On ne peut pas, On ne peut pas d'abord chercher la solution d'en finir et tout ça. Et puis, tous ceux qui sont allés des commentaires là, c'est facile. Hein? C'est facile, vraiment. En tout cas, c'est ça mon émotion.
Bien, merci Malonga de Bandundouville. Nous parlons du nouveau programme de coopération entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo. Thomas nous appelle depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. Bonjour Thomas.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à tous les invités. Moi, je passe ce nouveau programme que l'UNICEF a à implanter, ce nouveau programme ici. C'est une bonne chose parce que l'UNICEF s'occupe des enfants. Je pense étendre des nouveaux programmes dans ce sens-là, c'est vraiment très salutaire. Qu'à cela ne tienne, nous avons quelques préoccupations à poser aux invités. Quel est l'impact du nouveau programme de coopération de l'UNICEF? Qu'est-ce que ça pourrait-il avoir sur les enfants et les filles, et surtout les familles, surtout les plus vulnérables? Ils ont parlé des nouveaux programmes, mais quel est l'impact de ces nouveaux programmes de coopération, surtout pour les familles les plus vulnérables, là où il y a ces enfants, dans des familles qui sont en fait vulnérables? Quel peut être, à terme de coopération de l'UNICEF, quant à ça? La deuxième question, comment l'UNICEF collabore-t-il avec le gouvernement congolais et d'autres partenaires locaux pour atteindre ces objectifs? Parce que s'il n'y a pas cette collaboration aussi, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a une coopération étroite entre l'UNICEF et les partenaires locaux quant à ça? Et la troisième question, parce que ce nouveau programme de coopération met l'accent aussi sur l'égalité des genres. Je ne sais pas à quoi l'égalité des genres peut-elle être une priorité pour l'UNICEF dans le cadre de ce nouveau programme. Parce que l'UNICEF, ce nouveau programme met en accent aussi l'aspect genre. Je ne sais pas à quoi l'égalité des genres peut-elle avoir une priorité pour l'UNICEF dans le cadre de ce nouveau programme.
Merci
c'est
Thomas.
Mes trois préoccupations.
D'accord, merci Thomas. 099-706-9941, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Monsieur Oumar Ndao, je rappelle que vous êtes chef de planning au bureau de l'UNICEF. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Malonga de Bandundouville dit qu'il y a beaucoup d'enfants orphelins à cause des conflits, Mobondo, etc. Et il a parlé aussi des enfants à l'est du pays. Et Thomas est aussi intervenu avec ces questions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous, à ces deux auditeurs, par rapport à leurs préoccupations?
Merci beaucoup à ces auditeurs pour les points pertinents qu'ils ont soulevés. Donc le premier intervenant, je pense, M. Malonga de Bandundu, il a raison en fait, il faut avoir de bases solides pour pouvoir construire une maison et l'UNICEF, c'est ce qu'elle essaie de faire en travaillant avec le gouvernement. Parce qu'on n'est pas une ONG, on ne vient pas juste faire des interventions isolées, mais on essaie de tout faire pour nous inscrire sur les priorités du gouvernement, à travailler surtout sur les renforcements des capacités du gouvernement à prendre action, même là où on n'est pas, parce que c'est ça d'abord la première redevabilité. Et dans ce sens, ce qu'il est en train de mentionner concernant les enfants orphelins ou autres, je pense que c'est l'objet de notre composante de programme sur la protection de l'enfant. L'UNICEF, en collaboration avec le gouvernement, notamment le ministère Genre, Famille et Enfants,
oui.
Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, mènent des programmes spécifiques pour, par exemple, sortir les enfants qui travaillent, qui sont recrutés dans les groupes armés, avec les travailleurs sociaux, même au niveau communautaire, pour les préserver des violences basées, donc des violences faites aux enfants. Les enfants qui sont orphelins ou autres, à travers la DIVAS, ont fait beaucoup d'interventions pour soulager donc la situation de ces enfants-là. Et ça va continuer. Maintenant, comme on dit, on ne peut pas couvrir tout le pays en même temps avec des moyens suffisants. C'est pourquoi on a décidé vraiment de focaliser non moins sur les enfants là où il y a plus de vulnérabilité, donc les provinces que j'ai mentionnées tout à l'heure, et à travers notre appui au gouvernement, le gouvernement pourra étendre ça aussi à d'autres localités. Donc aussi je suis d'accord avec
donc l'UNICEF ne collabore pas avec des partenaires locaux, vous collaborez directement avec le gouvernement.
On collabore avec le gouvernement,
oui,
avec les autres agences des Nations Unies dans le cadre de, du cadre de coopération conjoint et aussi avec des partenaires de mise en œuvre au niveau local. Que ce soit même les leaders locaux dans chaque localité, on travaille avec le gouvernement provincial, les divisions provinciales au niveau donc qui sont dans la province, même les acteurs au niveau donc des zones de santé, des bureaux d'état civil et les leaders locaux, donc les chefs de groupement, les chefs de village, etc. Donc nous travaillons avec la communauté à travers par exemple les CAC, les cellules d'animation communautaire, où on forme les relais, les volontaires à mieux travailler avec leur communauté pour sensibiliser sur ces questions et promouvoir les pratiques familiales essentielles.
Bien, il veut savoir, Thomas veut savoir également si vous travaillez aussi dans les, dans ce qui concerne l'égalité du genre.
Oui, l'UNICEF travaille beaucoup sur la promotion, en fait.
La promotion du genre, de, l'égalité des sexes.
L'UNICEF préfère le terme équité que égalité. Il y a une différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est chacun a la même chose en termes de quantité. Or, l'équité, c'est pas qu'on donne la même chose à chacun, mais on donne à chacun selon ses besoins. Donc, si... c'est pour d'ailleurs ça qui a amené l'approche de se focaliser sur les zones les plus vulnérables, parce que ça pouvait être plus facile de toucher les enfants qui ont déjà un certain niveau et puis de montrer qu'on a de gros résultats, alors que ceux qui en ont le plus besoin sont loin. Donc quand on prend en termes de sexe aussi, il y a des disparités, il y a de l'inéquité. Comme elle l'a dit tout à l'heure, le fait que il y a des normes sociales qui font que on est plus enclin à amener le garçon à l'école que la fille. Ça, c'est un problème que l'UNICEF cherche à rééquilibrer pour, à travers l'équité, pour que tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur religion, leur lieu de résidence géographique ou autre, puissent jouir de leurs droits, indépendamment de leur sexe ou autre. Ça, c'est de l'équité, donc de genre. Et des études ont montré que si, par exemple, les mamans sont éduquées, enseignées et autres, elles ont la capacité d'assurer une meilleure éducation de leurs enfants, par exemple, à travers l'alimentation qui peut permettre de prévenir la malnutrition. Elles sont plus capables d'amener leurs enfants donc au niveau des structures de santé et autres. Donc, c'est pourquoi nous travaillons pour renforcer les capacités de la femme, pour mieux asseoir le bien-être de l'enfant. Donc, c'est ça, en fait, l'idée et tout le travail que nous faisons sur cette promotion, donc, effectivement, pour les femmes.
Bien. Abigail, une réaction. Monsieur Malonga a parlé des enfants orphelins qui, victimes de la guerre de Mobondo, tout ça, les conflits. Et il a parlé aussi des enfants vulnérables, les enfants de l'Est, tout ça. Un message, Abigail.
C'est comme...
Ou qu'est-ce que vous pouvez lui dire, une réaction?
C'est comme M. Omar venait de le dire, l'un des principes fondamentaux ou l'un des piliers, encore une fois, je vais utiliser ce terme-là, de l'UNICEF, c'est l'équité aussi. Donc l'idée, c'est que les enfants aient tous accès aux mêmes droits de la même manière. Je peux comprendre la frustration de M. Malonga, parce que je sais, pour avoir vu des enfants dans certaines situations, que ce n'est pas évident pour ceux qui les entourent de supporter de les voir dans ces conditions-là. Mais je peux aussi dire que moi, je suis témoin du fait que ce n'est pas de la supercherie ce qu'on raconte, parce que moi je travaille avec, j'ai commencé en tant qu'enfant reporter, aujourd'hui je suis jeune encadrante des enfants reporters, ça fait 7 ans que je suis avec l'UNICEF aujourd'hui, et pendant mon parcours j'ai eu à avoir diverses situations, j'ai participé, j'ai été de ceux qui ont porté les voix des enfants dans certaines situations, je vais dire impossible à supporter auprès des décideurs. Et j'ai aussi été de ceux qui ont...
Le cas des enfants victimes des conflits armés et tout ça.
On a des enfants battus, on a des enfants en situation de rue, on a des enfants victimes de violences.
Maltraités et tout ça.
Voilà. Donc des enfants battus, que ce soit à la maison, à l'école. On a toutes ces situations-là. On a eu des enfants sans abri. J'ai pas envie de dire en situation de rue parce que ça encore, c'est violent déjà. Mais on a vraiment eu des enfants qui se sont retrouvés dans la rue, pas parce qu'ils ont fugué de chez eux, mais parce que peut-être ils ont été traités de sorciers ou peut-être qu'ils n'ont plus de famille. Du coup, ces enfants ne savent ni comment manger, ni comment vivre, rien du tout. Et on a vu les réponses suite aux plaidoyers que nous, on a portés devant des autorités, devant des décideurs. Et ces plaidoyers, on ne pouvait pas les faire sans l'appui de l'UNICEF. Parce que nous, enfants ou nous jeunes, on n'a pas une voix qui porte aussi fort sans avoir de soutien. si on le fait, c'est parce que l'UNICEF existe, c'est parce que l'UNICEF tient à ce que les enfants...
Et votre plaidoyer avait produit quel résultat, par exemple, Abigail?
On a plusieurs résultats. Je vous dis que ça s'étendait sur des années. Je vais encore le dire de mon propre témoignage. Je sais aujourd'hui qu'UNICEF appuie certaines ONG pour abriter les enfants. Je sais que l'UNICEF appuie certains orphelinats. Il a parlé, je ne sais pas si c'est M. Malonga, mais il y a quelqu'un qui a parlé de l'UNICEF qui faisait des dons. C'est pour montrer dans tous les cas...
Des dons dans les écoles.
Voilà, c'est pour montrer dans tous les cas que l'UNICEF apporte son aide aux côtés du gouvernement autant que possible. Maintenant, à nous d'être patients pour leur permettre de travailler dans chaque secteur et d'aider chaque enfant en fonction de ses besoins à remonter la pente.
Emmanuel, comment tu réagis? Quelle est ta réaction?
Ah ouais, je pense que les derniers ont toujours rien à dire.
Parce que les autres ont déjà tout vu.
Je vais quand même essayer de dire, parce qu'il y a M. Malonga qui dit UNICEF a des idées. Oui, les idées, c'est bon. Mais il faut aussi passer, il faut concrétiser ces idées. Et voilà, on parle maintenant de cette nouvelle coopération qui a les axes, les différents thèmes qui vont vraiment nous aider pour... étendre, en fait, si je vais dire comme ça, les travails de l'UNICEF, tous les enfants et les droits. C'est vrai, on parle des enfants qui vivent la guerre, parce que ça dérange, ça nous touche. Moi, par exemple, récemment, j'étais à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, et j'ai pris parole lors d'un événement en parallèle avec l'UNICEF, l'OIM, Save the Children, tous ces partenaires, où j'ai parlé aussi des problèmes des enfants à l'Est, parce que il y a, par exemple, les enfants qui vivent dans les camps des réfugiés, il y a des enfants
les
qui subissent...
Les camps des déplacés.
Ouais, les camps des déplacés, il y a des enfants qui subissent les effets, qui subissent les inondations. Récemment, on parlait des inondations décalées, et je me demande comment ces enfants-là, ils font. Et pour moi, par exemple, je ne m'étais pas lors des... quand je passe dans différents sommets, dans ces différentes conférences, je rappelle en fait aux autorités, notamment ici aussi au niveau local, qui est au niveau international, les droits pour chaque enfant de jouir de ses droits. C'est vrai que il faut accepter qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Mais c'est vrai qu'il y a encore certains problèmes, il y a certains
encore des défis qui qu'il faut persistent, relever.
Mais petit à petit, c'est comme on l'a dit. Moi, j'appelle tout le monde à passer à l'action. C'est comme moi, j'ai dit souvent, un doigt ne lavera jamais le visage. C'est pas l'UNICEF qui va résoudre tous les problèmes. Voilà pourquoi l'UNICEF travaille avec les gouvernements. Voilà, mais la population, si rien n'empêche que la population aussi s'engage. La population peut dire, par exemple, voilà, nous les jeunes de ces quartiers, on s'engage pour peut-être balayer tous les jours les matins, on s'engage par exemple à sensibiliser. C'est ça en fait. Donc chaque action, même minime, mais compte. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à créer, moi je vais dire, à reconstruire notre pays, un Congo plus prospère.
Oui. Ouais. Bien, Monsieur Oumar, ce nouveau programme de coopération, il y a plusieurs axes d'intervention. Nous avons la santé, la nutrition, WASH, eau, assainissement, etc., climat, éducation, protection et autres. Alors, quel est le secteur d'intervention prioritaire, je veux dire, où tous les secteurs sont prioritaires?
Ce qui est prioritaire, c'est vraiment la réalisation des droits des enfants. Maintenant, tous les secteurs contribuent à ça. Et donc, effectivement, l'UNICEF a des domaines sur lesquels elle appuie le gouvernement pour réaliser ses droits fondamentaux de l'enfant. Notamment, la première composante du prochain programme, c'est la santé. Et à ce niveau, nous allons continuer à travailler avec le gouvernement pour renforcer le système de santé globalement, en termes de capacité des acteurs, en termes d'équipement. Comme par exemple, l'UNICEF est en train d'appuyer le gouvernement, même à travers ce cycle, à mettre des chaînes de froid dans toutes les structures de santé pour pouvoir conserver
les vaccins,
les intrants et tout. On va continuer ce travail. Et on va aussi continuer à renforcer la santé au niveau communautaire. Pour que les enfants, les mamans puissent vraiment bénéficier autant que possible de ce qu'il faut passer le droit. Donc au-delà de la santé, nous avons la nutrition, où nous allons continuer à travailler avec le gouvernement et les autres partenaires nous avons mené pendant ce cycle et on va le continuer avec le PAM, la FAO et d'autres acteurs. Beaucoup d'interventions de lutte contre la malnutrition, pour la promotion de l'alimentation diversifiée pour prévenir et le traitement. Il y a aussi la composante WESH et climat. Et là, donc, ce programme met en exergue le climat. Donc, c'est pourquoi on l'a arrimé à cette composante WESH pour nous assurer que toutes les infrastructures vont être sensibles aux aspects de climat. Et on va nous assurer que, en fait, la RDC souvent est présentée comme un pays problème, où on mentionne seulement des guerres, des épidémies, des crises et autres. Mmh. Mais la RDC est aussi un pays solution, surtout du point de vue du climat. Mmh. La RDC est le deuxième poumon vert de la planète après la forêt amazonienne. Donc ça, c'est une opportunité et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au niveau du climat. Et dont le monde a besoin. Par rapport aux minéraux, les minéraux dont le monde a besoin, surtout ce qu'on appelle les minéraux verts, c'est en RDC. Donc la RDC a quelque chose à faire dans le domaine du climat et de WESH, et ça, l'UNICEF va travailler ensemble avec le gouvernement pour promouvoir cet aspect. Il y a l'éducation et, et les adolescents. Nous allons continuer à appuyer l'État par rapport à l'éducation, mais aussi surtout à continuer à former les jeunes sur des métiers qui peuvent leur générer des revenus pour se prendre en charge et contribuer au bien-être de leur famille. Mmh. La protection de l'enfant aussi. Nous allons continuer à travailler pour sortir les enfants des groupes armés, pour assister les enfants qui sont en conflit avec la loi, pour promouvoir l'enregistrement des naissances et tous ces éléments donc qui sont des droits fondamentaux des enfants. Et nous allons, la sixième composante, c'est la politique sociale.
Oui.
Et quand on dit politique sociale, c'est comment le gouvernement et les partenaires, dont l'UNICEF, seront capables d'appuyer les ménages où vivent les enfants à être dans de meilleures conditions. Donc, à travers des programmes d'assistance sociale comme des cash transferts, à travers l'appui au gouvernement pour pouvoir élaborer
pour réduire l'extrême pauvreté.
Exactement, réduire l'extrême pauvreté en votant et en mettant en œuvre des budgets sensibles aux enfants. Parce qu'actuellement, à RDC, ça commence à évoluer avec l'appui de l'UNICEF et d'autres acteurs, mais le budget consacré à l'éducation était trop faible. Le budget consacré à la santé, de même, etc. Mais avec la collaboration que nous faisons avec le gouvernement et même les parlementaires, donc les députés, les sénateurs, commencent à voter des budgets qui donnent plus de part à ces secteurs sociaux de base au bénéfice des enfants. Donc ça, c'est des choses que nous allons continuer à faire dans le cadre de ce programme pour nous assurer que les droits des enfants soient réalisés. Mais j'aimerais juste revenir sur un élément important que Emmanuel a mentionné tout à l'heure. Mmh. C'est la redevabilité, c'est-à-dire la responsabilité doit aller en fait de l'obligataire qui est plus proche de l'enfant jusqu'à l'obligataire qui est le plus loin. Dans le cadre de l'approche basée sur les droits humains, on a deux choses. L'ayant droit, le bénéficiaire. L'approche, c'est de ne pas les appeler bénéficiaires, parce que c'est pas des bénéficiaires, mais c'est des ayants droit. Les enfants ont des droits. Et l'obligataire. Donc, le premier obligataire de l'enfant, c'est ses parents, qui l'ont mis au monde, qui ont l'obligation de s'assurer que l'enfant puisse jouir de ses droits. Maintenant, ce parent-là, en tant qu'obligataire envers l'enfant, est aussi ayant droit de la part de sa communauté. Donc, la communauté, le chef de village, les autres, ont une obligation de créer les conditions pour que le parent, s'il veut amener son enfant à l'école, puisse trouver l'école. Puis qu'il y ait des enseignants qui peuvent l'enseigner, etc. Jusqu'à ce que ça arrive au gouvernement. Donc il y a des obligataires à plusieurs niveaux.
À plusieurs niveaux.
Et l'UNICEF maintenant est un obligataire envers le gouvernement. Donc il ne faut pas qu'on inverse la chose en commençant à interpeller l'UNICEF ou le gouvernement, mais ça doit commencer d'abord par le parent. Et le parent sera accompagné par l'UNICEF, par le gouvernement pour faire son devoir, les leaders locaux, au niveau provincial jusqu'au niveau
et
national.
Et ainsi de suite. Ouais. Bien, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Abigail Mwabe, jeune encadreur d'enfants, pour terminer, quel est le message que tu adresses aux auditeurs, à tous les enfants qui te suivent en ce moment?
Déjà, c'est un plaisir de participer à cette émission parce que je crois que la défense des droits de l'enfant a fini par devenir une passion à force de le faire. Donc, ce que je vais dire aux auditeurs, je préfère m'adresser aux enfants en premier.
D'accord, allez-y.
Donc, j'aimerais que les enfants sachent qu'ils ont des droits. Ça, je martèle, mais vraiment, que les enfants sachent qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent eux-mêmes porter ces droits-là, porter la défense de ces droits-là. Les droits de l'enfant ou la défense des droits de l'enfant n'est pas réservée aux enfants formés par l'UNICEF seulement ou n'est pas réservée aux enfants X ou Y. Les droits de l'enfant ou la défense des droits de l'enfant, c'est une question de chaque enfant. Donc, j'aimerais vraiment que chaque enfant congolais garde en tête qu'il a des droits et que les parents ou les adultes qui l'entourent ont des obligations vis-à-vis de lui. Et donc, parce que je pense que si chaque enfant est conscient de ses droits, la violence des droits de l'enfant, ou la violation, pardon, des droits de l'enfant sera de moins en moins fréquente. L'une des choses qui fait que les droits de l'enfant sont de plus en plus violés en RDC, c'est le fait que les enfants ignorent leurs droits. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais rappeler à chaque enfant, chers enfants, vous avez des droits.
Il faut les défendre.
Voilà, vous avez des droits. Soyez vous-même porteur de vos droits et surtout défenseur de vos propres droits. Parce que c'est ce qui fait votre force en premier.
Très bien, merci beaucoup Abigail Mwabe. Emmanuel Jidissa, ambassadeur UNICEF Climat. Alors, un message à tous les enfants, à tous les jeunes qui t'écoutent en ce moment.
Déjà, merci beaucoup pour cette belle opportunité. Je suis très heureux d'être en direct aujourd'hui. Un message pour tous les enfants, c'est un peu comme Abigail l'a dit, soyez conscients de vos droits, vous avez les droits. Et il y a un adage qui dit que les plus grands changements commencent souvent par des actions portées par des personnes qui sont directement victimes de la situation. Et les enfants, et ils sont victimes des ils sont touchés par différents problèmes. Et je pense qu'ils sont les premiers, en fait, ils sont qui vont dire papa, voilà, moi, j'imagine un exemple. Il dit papa, voilà, moi, j'ai mal à la tête. C'est lui qui s'est expliqué. Et c'est lui qui dit, par exemple, pour ça, 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 il faut ça, ça, ça. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je ne savais pas qu'en fait, subir les effets du changement climatique, c'était une violation de mes droits. Je ne savais pas que j'étais pas protégé. Pour moi, c'était tout à fait normal. C'était une maladie peut-être pour moi. Mais c'est après, parce que je rappelle ici que je suis une personne vivant avec l'albinisme. Donc, les effets du changement climatique, j'ai connu. Vraiment, j'ai vraiment de l'expérience là-dessus. J'en ressens. Mmh. Et c'est après ma formation en tant qu'enfant rapporteur que j'ai appris voilà, que... ce n'est pas en fait normal, je suis pas malade, je suis en train de vivre les effets du changement climatique alors que la convention relative aux droits de l'enfant dit que je dois être protégé. Voilà, j'ai commencé à défendre mes droits à différents niveaux. C'est comme monsieur Omar l'a dit, il y a différents niveaux qu'il faut pour un plaidoyer. Déjà à la maison, par exemple, papa, voilà, si je dois être protégé, et lui, tant que père, peut-être qu'il me trouve un parasol, il me trouve des manches longues, et ça contribue déjà. Et c'est comme ça au niveau, au fur et à mesure, on avance, on atteint différents niveaux. Donc le message, c'est beaucoup plus pour les enfants d'être ambassadeurs, je les appelle d'être ambassadeurs aussi comme moi, être défenseurs là où ils sont, mener des actions pour défendre leurs droits. Voilà.
Bien, merci Emmanuel Jidissa. Je rappelle que vous êtes ambassadeur UNICEF Climat. Nous disons également merci à Abigail Mwabe qui est jeune encadreur d'enfants et évidemment merci à Oumar Ndao qui est chef planning au bureau de l'UNICEF et RDC. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission et bien des bonnes choses et à la prochaine. Bien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Paul Badianyama a assuré la mise en onde. Tati Mapoukou était à la coordination et à la réalisation. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Excellente condition d'écoute des programmes sur Radio Capi. À la prochaine.